Comment les frontières actuelles de la France se sont-elles imposées? Dans ses recherches sur l'histoire des frontières de France, Daniel Nordman a montré que les mots « frontières » et « limites », que l'on considère aujourd'hui comme des synonymes, n'avaient pas le même sens dans le passé. Le terme « frontière », issu du vocabulaire militaire, était utilisé jusqu'au XVIIe siècle pour signaler une zone fluctuante d'insécurité, de risque, de transgression et de conflit latent que les États se devaient de surveiller. Le territoire était vu comme une étendue définie par sa forme, plus que par ses limites précises. Pour décrire le royaume, les monarques utilisaient des images spatiales fluctuantes empruntées à la géographie, le Rhin, les Alpes et aussi ce qu'on appelait alors les quatre rivières, Escaut, Meuse, Saône, Rhône, servaient à désigner des parties du royaume de France. Daniel Nordman a étudié en détail les accords diplomatiques concernant la cession des territoires lors des traités passés entre les États. Il a examiné la façon dont était effectué le bornage des villages, placés sur la ligne de partage. Il s'est intéressé aussi aux contestations innombrables qui se déroulaient dans les zones frontières et aux enquêtes réalisées auprès des notables locaux. Il en a conclu que, jusqu'au XVIIe siècle, le territoire d'un État souverain était perçu un peu comme un puzzle. Ce qui comptait, c'est l'assemblage des unités élémentaires qu'il contenait plus que le tracé de ses limites. Toutefois, une nouvelle pratique de la territorialité est apparue dans la seconde moitié du XVIIe siècle, quand la régularisation précise des confins a commencé à faire problème. Les batailles autour des reconnaissances de droits, qui étaient fréquentes au XVIIe siècle, ont cédé progressivement la place à des enquêtes de terrain pour évaluer très précisément ce qu'impliquaient les rectifications de frontières et l'échange de territoires. Le concept de frontière d'État, tel qu'il existe aujourd'hui, s'est fixé définitivement pendant la Révolution, au moment où a triomphé le principe de la souveraineté nationale. L'exemple de la principauté de Porrentruy montre bien comment s'est concrétisée cette nouvelle perception du territoire. Placée sous la coupe des princes-évêques de Bâle depuis 1528, cette principauté a été annexée par les armées révolutionnaires en avril 1792. Porrentruy devint alors le chef-lieu du département français du Mont-Terrible, incorporé ensuite au département du Haut-Rhin, avant d'être rattaché à la Suisse lors du traité de Vienne en 1815. L'occupation de ce territoire par la France s'accompagna aussitôt d'un travail méticuleux visant à tracer la nouvelle frontière. Elle fut balisée par des centaines de bornes où figuraient de chaque côté les armes des deux souverains. Même si le français devint alors la langue officielle de ce nouveau département, il faut préciser qu'à cette époque, on ne cherchait pas encore à faire coïncider les frontières physiques d'un État et les frontières linguistiques. C'est seulement durant la première moitié du XIXe siècle que des prétentions territoriales fondées sur la langue ont commencé à se développer pour alimenter les discours sur le principe des nationalités.